Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Samuel Bernard, Juliette Gadeau, Clément Salazar, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean Frédéric. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Journaliste au Monde, bien sûr. On va s'interroger ce matin sur la durabilité de l'axe Moscou-Téhéran-Ankara. Cette semaine, s'est tenue la conférence sur la Syrie à Astana, capitale du Kazakhstan. S'il n'y a pas eu vraiment d'avancée ni sur la cessation complète des hostilités, ni même sur la transition politique, elle a abouti à une déclaration commune entre les trois pays à l'initiative, la Russie, l'Iran et la Turquie, marquant la formalisation de l'émergence d'un trio décidé à travailler de concert. Mais leurs intérêts respectifs sont-ils réellement compatibles? Et pour combien de temps? Au-delà de la question syrienne, ces pays pourraient-ils construire une coalition pérenne? Et comment pourraient-elles modifier aussi leur rapport à l'Occident? À la fois concernant l'Iran, qui s'en était rapproché à la faveur de l'accord sur le nucléaire obtenu à l'été 2015, mais aussi s'agissant de la Turquie, qui, rappelons-le, est toujours membre de l'OTAN et donc un allié naturel de l'Occident. Des questions d'autant plus prégnantes avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui semble décidé à revoir le rôle de son pays dans les équilibres mondiaux. Moscou, Téhéran, Ankara, entente de circonstances ou alliance durable? Voilà la question sur laquelle on va se pencher dans quelques instants avec Marc Pierini. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur européen, notamment en Turquie et en Syrie. Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheur pour le programme Moyen-Orient à l'Institut international d'études stratégiques de Londres. Avant d'ouvrir nos débats, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin revient de Birmanie. Bonjour Christine Chomeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste. On vous reçoit pour votre article paru dans Le Monde diplomatique. L'icône de la démocratie birmane ménage les militaires. Vous êtes rendu récemment donc à Rangoon, l'occasion de faire un état des lieux sur ce pays à la tête duquel se trouve désormais la lauréate du prix Nobel de la paix 1991, Aung San Suu Kyi. Si son arrivée au pouvoir, c'est vrai, avait suscité d'immenses espoirs, c'est vrai qu'elle est aujourd'hui pointée du doigt pour son inaction, pour son impuissance dans cette véritable tragédie humaine qui touche l'ethnie musulmane Rohingya dans le nord-ouest du pays. Vous expliquez que depuis le 1er novembre dernier, près de 30 000 Rohingyas ont fui la Birmanie. Alors je rappelle quelques éléments quand même pour les auditeurs. C'est un pays à 90% bouddhiste. Les Birmans bouddhistes représentent le groupe ethnique le plus puissant, près de 70%, alors que les musulmans, eux, représentent environ 5%, sachant que là encore, il y a plusieurs minorités musulmanes, celles qui sont venues d'Inde et installées en Birmanie depuis longtemps, et puis la minorité Rohingya de langue bengali, originaire de Perse, de Turquie, d'Arabie ou des confins de ce sous-continent indien. Ça fait très longtemps que les Rohingyas en réalité font l'objet de discriminations, de violences. Ils étaient d'ailleurs arrivés ici au 19e siècle, poussés par les Britanniques qui avaient cherché à s'en débarrasser. Aujourd'hui, les Rohingyas sont victimes de violences perpétrées à la fois par l'armée birmane mais aussi par les milices et tous les groupes bouddhistes radicaux. Finalement, Christine Chomeau, rien n'a changé pour eux et d'une certaine manière, c'est assez représentatif de ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire assez peu de changements. Ces violences sont l'illustration absolument tragique de la déception quant aux effets, en réalité très modestes, de l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi.
Certes, le tableau que vous dressez est tout à fait juste, mais il faut rappeler également que Aung San Suu Kyi hérite d'un pays complètement détruit, qui était géré par une junte militaire pendant 50 ans, et elle ne peut pas tout changer du jour au lendemain. D'autant qu'elle a une marge de manœuvre extrêmement étroite, puisque, comme le rappellent des journalistes que j'ai et des analystes que j'ai interviewés pour cet article, on n'assiste pas du tout à une révolution, mais à une évolution voulue et maîtrisée par les militaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait adopter en 2008 une constitution qui leur réserve un certain nombre de pouvoirs très importants, notamment le ministère de la Défense, le ministère des Home Affairs, comme on dit, qui gère l'ensemble de l'administration, et le ministère des Affaires frontalières. Par ailleurs, ils gardent 25% du Parlement. Donc, Aung San Suu Kyi doit manœuvrer avec ses militaires. Néanmoins, comme vous le dites, elle n'a peut-être pas montré suffisamment d'intérêt, ou la déception est à la hauteur aussi de l'image qu'on avait dressée d'Aung San Suu Kyi. On en avait fait une icône absolument incroyable en Occident, et on avait dresser, enfin raconter l'histoire de la Birmanie un peu en blanc et noir, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté les méchants militaires et de l'autre cette femme très belle avec avec son orchidée dans les cheveux, et on attendait beaucoup d'elle. Et effectivement, la en Occident, on a besoin beaucoup d'icônes et on oublie les shade of grey, le gris en fait dans ces histoires-là.
Mais vous avez raison de rappeler évidemment que ce sont les militaires eux-mêmes qui en réalité sont à l'origine de cette ouverture. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que rien n'a changé dans cette capacité à faire contrepoids avec l'armée. Parce que cette impuissance d'Aung San Suu Kyi, on l'avait senti dès le lendemain des élections qui avaient vu son parti l'emporter en novembre 2015. Vous rappelez ça dans votre papier très bien. Vous revenez d'ailleurs sur le moment où les nouveaux députés de la Ligue nationale pour la démocratie, qui est donc le parti d'Aung San Suu Kyi, se rendent pour la première fois au Parlement, où ils sont obligés d'être escortés parce qu'ils craignent d'être attaqués, et d'être attaqués et emprisonnés par qui ? Par les militaires eux-mêmes, en réalité.
C'est pas la première fois, c'est tous les jours, en fait, les jours de session parlementaire.
Mais dès la première session. Finalement, pourquoi l'armée, aujourd'hui, est toujours aussi forte ? Comment comprendre qu'elle ne soit absolument pas parvenue à limiter
parce que l'armée n'a pas envie de laisser pour l'instant la place à une démocratie pleine et entière. Tant que imaginons, Aung San Suu Kyi ne peut rien dire à l'armée. C'est vraiment un système bicéphale où on a un gouvernement dirigé par un président. Aung San Suu Kyi elle-même a créé pour elle-même un poste, puisque la constitution lui interdisait, la constitution est encore une fois écrite par les militaires, lui interdisait d'accéder au poste suprême de président, puisqu'elle a des enfants britanniques. C'était une disposition de la constitution écrite vraiment pour empêcher Aung San Suu Kyi d'arriver à ce poste. Et du coup, donc d'un côté, on a un gouvernement civil qui a très peu de pouvoir, et de l'autre, on a le chef de l'armée qui, lui, continue effectivement à gérer les affaires qui lui semblent essentielles, c'est-à-dire la gestion des minorités qui sont en guerre contre l'armée birmane depuis 1948 et l'indépendance. Donc c'est une guerre civile qui dure depuis 60 ans et plus. Et du coup, cette gestion de l'affaire des Rohingyas dans la Rakhine, c'est effectivement le point clé qui peut faire dérailler l'évolution, la transition birmane vers une démocratie beaucoup plus solide.
Alors, il y a l'armée et puis aussi les groupes paramilitaires qui sont extrêmement puissants, qui puisent assez largement dans toutes les richesses du pays, que ce soit le pétrole, le gaz, les pierres précieuses, comme le jade notamment, vous l'évoquez un petit peu dans votre papier. Est-ce qu'il y a des efforts, là, en l'occurrence, pour tenter de casser ces sources de financement ? Je parle là des groupes paramilitaires.
Quand vous entendez les groupes paramilitaires, pardon, c'est les minorités ethniques. Alors, effectivement, il y a aussi un jeu très important de la Chine, puisque ces groupes ethniques opèrent dans une partie aux zones frontalières avec la Chine en partie. Donc la Chine aussi regarde ça de près. Ce que Aung San Suu Kyi a essayé de mettre en place, encore une fois avec beaucoup de prudence et beaucoup de parcimonie, mais elle a quand même appelé à une conférence de la paix en fin août de l'année dernière pour essayer de rassembler l'ensemble des parties en conflit autour d'une table. C'était une première. La question de la fédération qui jusque-là était absolument un gros mot pour les militaires, pour la junte, qui défendait l'unité du pays. Et sur la table.
Après, elle est sur la table, sauf que vous dites que cette fameuse conférence sur l'Union birmane, ça a été un véritable dialogue de sourds. En réalité, personne ne veut en entendre parler.
Enfin, si, on veut entendre parler de la paix, mais on ne sait pas comment la construire.
Mais pas du fédéralisme.
Et le fédéralisme, c'est une possibilité, mais chacun met derrière le fédéralisme une conception différente. Mmh. C'est ça le problème, c'est que... personne n'a une idée de ce qu'est une fédération.
Et c'est quoi les différentes options ?
Alors, les différentes options, c'est l'option qu'envisagent les groupes ethniques, c'est qu'effectivement, de recréer un peu ce qui a existé dans la Birmanie jusque-là. C'est-à-dire, puisque on est un pays où c'est une mosaïque absolument, où les ethnies sont intriquées, mais on pourrait voir se dessiner des États Shan, des États Kachin, et à l'intérieur de ces États, les minorités eux-mêmes qui habitent à l'intérieur de ces États seraient obligés d'apprendre la langue Shan ou la langue Kachin. Donc on aurait une reproduction de ce que la majorité Bamar a fait souffrir pendant des années aux minorités dans la Birmanie, dans l'Union birmane telle qu'elle a été construite depuis 1948.
L'une des promesses d'Aung San Suu Kyi, c'était de rendre des terres qui avaient été confisquées aux paysans, qui est d'ailleurs un accaparement qui s'était considérablement accéléré dans les années 2000, sauf que là encore, concrètement, les propriétaires spoliés attendent toujours.
Oui, mais là aussi, c'est un problème énorme. Enfin, je veux dire, effectivement, les accaparements de terres se sont faits à partir des années 2000, quand là, les entreprises proches de l'armée ont voulu faire des développements sans aucun lien avec les populations locales. C'est-à-dire qu'on prenait des terres pour créer une zone industrielle ou pour créer un barrage. Et là encore, il faut créer un espace de dialogue, ce qui n'existe pas dans ce pays. Il n'y a pas de culture, de réflexion sur comment on crée un dialogue. Enfin, ça n'a jamais existé depuis 50 ans.
Ouais, et ce que vous dit un membre de Génération 88, qui est un mouvement de la jeunesse pour la démocratie, c'est qu'en réalité, les entreprises étrangères et les ONG vont pouvoir profiter de l'ouverture du pays, profitent déjà de l'ouverture du pays, alors que les acteurs locaux, eux, restent à la marge.
Oui, et il y a un gros problème de formation. C'est-à-dire qu'il y a là aussi, la junte militaire depuis 1988, c'est la plus importante des manifestations étudiantes pour la démocratie. C'est un peu là où l'Occident a commencé à parler de la Birmanie, et c'est là où la figure d'Aung San Suu Kyi a émergé. Et depuis 1988, la junte militaire n'a cessé de démolir le système éducatif birman, alors que le système éducatif birman, les universités birmanes étaient en Asie du Sud-Est connues pour leur sérieux et pour leur efficacité. Et du coup, on a une population qui est très, très peu éduqués. Ceux qui ont pu partir à l'étranger et s'éduquer maintenant, il y a une petite frange de la population de la classe moyenne. Souvent, c'était des personnes proches des cronies, c'est-à-dire proches des militaires. Et du coup, il y a un énorme travail pour remettre à flot le système éducatif et recréer une capacité, enfin, ou créer même une capacité de réflexion, de dialogue, qui encore une fois est absolument inexistante.
L'opinion, Christine Chaumont, comment est-ce que les Birmans perçoivent justement cette incapacité de Aung San Suu Kyi à poursuivre sur le chemin de la démocratisation? Est-ce qu'ils sont extrêmement déçus ou est-ce qu'ils continuent à lui faire confiance?
Alors, je pense que le test, ce sera en avril prochain. Il y a des élections partielles qui vont avoir lieu en avril. Et effectivement, on va voir si les parlementaires qui de la liste, des listes LND, remporteront les sièges.
Enfin, mais ce que vous ont dit les Birmans?
Alors, quand j'y suis allée au mois de juin, les Birmans étaient enthousiastes, ravis, lui font une confiance totale. Mmh. Enfin, c'est vrai que c'était très tôt par rapport à la prise des fonctions du gouvernement, puisque le gouvernement a pris ses fonctions en avril. Mais on sentait un vrai enthousiasme, une vraie attente, de l'espoir, tout en sachant que ça allait prendre du temps. Mes interlocuteurs étaient conscients de la tâche énorme que le nouveau gouvernement avait à affronter. Après, les personnes que j'ai pu voir dans des quartiers autour de Rangoon, des ouvriers, eux, ils attendaient effectivement une amélioration de leur vie quotidienne. Et là, c'est là où ça va être le plus long aussi et le plus difficile pour qu'il y ait des augmentations de salaire, pour qu'il y ait de l'eau, un accès à l'eau, un accès à l'électricité. Et bon, alors là, à savoir si effectivement les électeurs en avril prochain, est-ce qu'ils vont dire, c'est déjà trop tard.
On se souvient qu'en octobre dernier, les sanctions américaines qui pesaient sur la Birmanie ont été levées. D'ailleurs, l'annonce avait été faite lors de la visite d'Aung San Suu Kyi à la Maison Blanche. Quel effet a eu cette levée des sanctions? Et de façon plus générale, dans quelle mesure est-ce que les pressions extérieures, américaines ou autres, peuvent jouer sur cette ouverture démocratique?
Alors aujourd'hui, avec le nouveau président élu aux États-Unis, Donald Trump, le jeu dans la région, en Asie, comme partout dans le monde, est rebattu. C'est certain que si Hillary Clinton avait été élue présidente, un lien particulier existe entre Hillary Clinton et Aung San Suu Kyi, et on aurait pu penser que qu'elle aurait accompagné de près cette transition démocratique. Aujourd'hui, Donald Trump, à ma connaissance, ne s'est pas prononcé sur la question birmane. Les levées des sanctions permettent, encore une fois, aux entreprises qui émanent du complexe militaire de faire des affaires avec des investisseurs occidentaux. Les investisseurs occidentaux sont très impatients de venir en Birmanie, puisque c'est tout en étant conscient des difficultés, parce qu'il n'y a pas du tout encore un cadre législatif qui permet de faire des affaires de manière sûre. Mais les investisseurs asiatiques sont déjà très présents. Donc voilà. La levée des sanctions américaines permet à 104 personnalités de ne plus être interdites de commercer et de faire de lier des accords commerciaux avec les grandes entreprises américaines.
Christine Chaumeau, hier, en préparant cette émission, j'ai vu peut-être un parallèle, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, entre la Birmanie et la Colombie. Puisqu'on se souvient que quand il y a eu cet accord qui a été trouvé entre l'État colombien et les FARC, il y a eu ce référendum qui a été rejeté, le monde a été sidéré. On n'a pas compris finalement pourquoi est-ce que les Colombiens n'étaient pas disposés à tourner la page de plus de 50 ans de conflit. Et l'une des hypothèses qu'on avait émis ici avec un des invités qu'on avait eu autour de cette question-là, c'était de dire que peut-être que les Colombiens ont peur d'une certaine manière de se lancer dans la paix parce qu'aujourd'hui la société est totalement structurée autour du conflit armé, de la guerre. Est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose qui relève de cette idée-là du côté de la Birmanie ? Est-ce que les Birmans n'ont pas peur que rassembler les conditions de la paix, faire émerger une union birmane avec un modèle fédéraliste, eh bien ça permettrait éventuellement d'apporter la paix, mais ça aurait des conséquences sur l'organisation sociale, sociétale, économique du pays considérables, et d'une certaine manière les Birmans n'y sont peut-être pas prêts. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai pas senti de peur. J'ai senti au contraire que les Birmans avaient un soulagement, puisque depuis 2012, depuis la disparition de la junte en 2011, la peur existait avant. La peur de la junte existait avant. C'est-à-dire qu'on avait un pays qui était quand même sous une chape de plomb. Le moindre écart pouvait vous envoyer en prison, ou le travail avec l'opposition. Après, je pense qu'il y a une difficulté à concevoir ce que peut être cette paix, une difficulté à concevoir ce que peut être ce pays qui, encore une fois, est né des restes de l'Empire britannique. En fait, la Birmanie, comme on la connaît actuellement dans ses frontières actuelles, n'a jamais existé avant que les Britanniques n'intègrent cette partie du monde, de l'Asie du Sud-Est, dans leur grand empire du Raj. Et les frontières de la Birmanie de 1948. Donc il faut vraiment se projeter dans un nouveau pays. Et c'est là où il y a une difficulté, je crois, et un manque, encore une fois, de ressources humaines, de réflexion, d'universitaires birmans. C'est ce que me disait Matida, qui est une écrivaine, présidente du Pen Club, c'est que on a du mal à se projeter dans un rêve commun, en fait. Et c'est peut-être là qu'on peut aussi, on peut regretter que Aung San Suu Kyi malgré son charisme, n'ait pas réussi à proposer ce que pouvait être ce rêve commun, parce qu'elle avait l'aura nécessaire pour cela.
Réaction peut-être ici en plateau, Marc Pierini, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que ça vous inspire,
cette situation? Un élément qui me frappe, c'est vous avez parlé à propos de la Colombie d'abord et puis de la Birmanie, vous avez dit une société structurée autour de la guerre, et c'est exactement ce qu'on voit en Syrie aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu au Liban pendant les années de guerre civile, c'est ce qu'on voit en Libye aujourd'hui. Il y a des pays, des peuples qui... par force, probablement, sont capables de s'organiser pour vivre comme ça. Et peut-être que l'avenir de la Syrie va nous démontrer cela, notamment en raison des intervenants extérieurs dont on va parler.
Merci beaucoup, en tout cas, Christine Chaumeau, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc journaliste. On vous recevait pour cet article paru dans Le Monde diplomatique, l'icône de la démocratie birmane ménage les militaires. Il y avait aussi d'autres choses qu'on aurait pu évoquer ensemble. On n'a pas eu le temps, mais donc j'invite les auditeurs à acheter Le Monde diplomatique et à lire cet passionnant papier, Les prisonniers politiques oubliés, avec deux figures croisées absolument fascinante. Donc, je n'en dis pas plus, mais il faut lire ce papier, Les prisonniers politiques oubliés. C'est extrêmement intéressant. Christine Chameau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
On tourne cette page birmane et alors que la conférence d'Astana sur la Syrie s'est tenue cette semaine, Moscou, Téhéran, Ankara, entente de circonstances ou alliance durable, c'est notre sujet.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et en effet, en début de semaine, des discussions se sont tenues au Kazakhstan, à Astana, entre certains chefs de ce qui reste de l'opposition syrienne et les représentants du régime de Bachar al-Assad. Une rencontre organisée par la Russie, l'Iran et la Turquie, de laquelle est sortie une déclaration finale commune.
Ce qui compte, a commenté le chef de la délégation Bachar Jafari, ce n'est pas de savoir qui est content ou pas content. Le résultat, c'est que nous avons enfin un document consensuel, appelé communiqué final ou déclaration finale, sur lequel tout le monde est d'accord. Voilà le résultat, voilà ce qui compte.
Voilà, être d'accord, voilà l'essentiel pour Bachar Jafari, le représentant du régime syrien. En effet, ces trois acteurs sont d'accord, la Russie, l'Iran et la Turquie. Alors pour ce qui est de la Syrie, on sent bien que le dialogue sera compliqué. L'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar Jafari, qu'on entendait, a qualifié ses interlocuteurs de bande de terroristes. Le chef de la délégation rebelle, en retour, goûtant assez peu le compliment, a dénoncé l'arrogance de ce dernier. Bref, il apparaît déjà que le fait que les discussions se tiennent désormais sous un nouveau patronage et plus sous celui des États-Unis, des Européens et de l'ONU ne réglera pas tout. Quoi qu'il en soit, on va se demander ce matin si cette nouvelle alliance entre la Russie, l'Iran et la Turquie pourrait constituer un nouvel axe dans les relations internationales. Marc Pierini, Clément Terme sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde chaque vendredi. Marc, ça fait plusieurs semaines qu'on dit que les équilibres mondiaux sont en train de changer, que les alliances sont en train d'être profondément bouleversées. Il y a ce retrait américain engagé par l'ancien président américain Barack Obama, d'ailleurs, qui va probablement être poursuivi par Trump. Il y a ce retour de la Russie sur la scène internationale. Il y a le déclin d'une Europe qui semble compter de moins en moins. Et dans ce nouvel environnement, on voit là émerger ce nouveau système d'association. Astana, donc organisée par la Russie, la Turquie et l'Iran, en étant l'une des illustrations.
Absolument, c'est un peu le symbole d'un monde qui change, cette espèce de réunion improbable au milieu de la steppe kazakh dans une ville construite ex nihilo par un dictateur.
Pas tout à fait ex nihilo, mais bon. Il existait déjà une ville, mais c'est pas le sujet.
Petite. Voilà. Et effectivement, on peut dire que pour le moment, Vladimir Poutine, qui a été le maître d'œuvre de tout ça, a réussi son coup. Ses bombardiers ont permis au régime avec les milices chiites de reprendre le contrôle de l'intégralité d'Alep. Il a réussi à transformer l'essai, au moins dans une première phase, au point de vue diplomatique. Mais en même temps, ce triple parrainage, ce qu'on appelle désormais le processus d'Astana, semble quand même très, très, très fragile. D'abord, ce qui les unit, bon, c'est une volonté de revanche par rapport à l'Occident. Mais pour le reste, on a d'abord un déséquilibre entre les trois partenaires. On a une Russie qui est en passe de devenir l'autre grand, même si, il ne faut pas l'oublier, son PIB est plus ou moins équivalent à celui de l'Italie, ce qui n'en fait pas une vraie superpuissance. L'Iran, qui est en train de devenir la vraie puissance régionale, occupant le vide, devenant, avec de fait une hégémonie, y compris sur l'Irak, et une Turquie, qui est à la fois en déclin à tout point de vue, et qui est en délicatesse avec l'OTAN. Alors les fragilités, on l'a vu déjà à Astana, je finirai là-dessus. Bon, la Russie veut sortir, ne veut pas d'une guerre longue, donc veut arriver à un compromis, mais on voit que c'est quand même très difficile. L'Iran, en revanche, soutient totalement le régime de Assad et veut une victoire totale, ce que ne veut pas la Russie. Quant à la Turquie, elle est là pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être, avoir sa petite place dans les négociations, mais ses cartes sont très limitées. Elle veut notamment aussi bloquer l'émergence d'un État kurde syrien, enfin d'une entité kurde syrienne, mais là-dessus, elle n'aura pas les moyens de vraiment peser. Donc on voit déjà les tensions, notamment entre Ankara et Téhéran, très révélateur. Les officiels turcs accusent les services secrets d'un pays étranger d'avoir eu un rôle dans le carnage de la nuit de la Saint-Sylvestre au Rena. Ça vise l'Iran, parce qu'effectivement, le djihadiste était passé par l'Iran. Et donc, on voit qu'il y a déjà cette montée des tensions entre Ankara et Téhéran.
Marc Pierini, peut-être, commençons par un bilan d'Astana. Est-ce que les discussions ont plus de chances d'aboutir que lorsque c'était les États-Unis et l'ONU qui étaient aux manettes ?
Je dirais que c'est d'abord une alliance de circonstances. Les résultats d'Astana sont extrêmement maigres. Et les trois partenaires sont là, chacun pour ses propres objectifs. La Russie est intervenue en septembre 2015 en Syrie pour sauver Assad, ça s'était assez rapidement fait, pour contrer les États-Unis et l'Occident dans la reformulation de l'ordre mondial, et maintenant, sous couvert d'un désengagement fictif, pour établir des bases beaucoup plus solides, une deuxième piste sur la base militaire de Latakia et des quais beaucoup plus nombreux dans la base navale de Tartous. L'Iran est là pour préserver le croissant chiite, Téhéran, Bagdad, Damas, Hezbollah. Téhéran a toujours dans son livre de route la destruction de l'État d'Israël et donc à fournir chaque semaine, chaque mois, des missiles au Hezbollah. Chaque fois que vous avez une frappe israélienne sur l'aéroport militaire de Mézeh à Damas, c'est pour détruire un chargement qui va atterrir par la route au sud Liban. Et puis la Turquie, comme on vient de le dire, la Turquie est dans une crise profonde, domestique, internationale, isolée après le coup d'État. Et donc la Turquie se refait une image internationale à travers ce processus. Mais la Turquie a en vérité un seul objectif, c'est d'empêcher le regroupement des cantons kurdes, parce que ça c'est l'obsession très ancienne, séculaire pratiquement, de ne pas voir apparaître un Kurdistan syrien. Or, le Kurdistan syrien, c'est quand même l'un des ingrédients d'une solution politique à terme. Encore que, on peut se demander si la Syrie qui sortira de ces discussions ne sera pas une mosaïque où vous auriez à l'ouest Assadland, le protectorat russe, des Kurdes, quelques autres groupes rebelles et puis une poche de Daesh qui subsisterait et tout ça peut vivre ensemble. On l'a bien vu dans la guerre civile au Liban.
Oui, il y a des objectifs évidemment qui divergent. Clément Terme, vous connaissez très bien l'Iran et en particulier les relations entre Téhéran et Moscou. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage sur cette question, les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979. On a beaucoup vu à Astana les Turcs et les Russes dans les discussions. C'est eux qui ont assuré la médiation entre les représentants du régime et ceux de l'opposition. Ils ont refusé en réalité de se parler directement, alors que les Iraniens, eux, étaient un tout petit peu en retrait. Pourtant, on sait bien que l'Iran est extrêmement présent sur le terrain, ces milices pro-iraniennes qui sont extrêmement nombreuses et décisives. Alors comment comprendre ce retrait relatif de la délégation iranienne à Astana ?
Non, je pense que du point de vue de l'Iran, en fait, ce qui comptait à Astana, c'était les absents. Donc les États-Unis, ça c'était un objectif principal de la diplomatie iranienne, éviter une participation américaine à la conférence d'Astana. Parce qu'un autre des piliers de la politique étrangère de la République islamique, outre l'antisionisme, est l'anti-américanisme. Donc c'était très important de ne pas apparaître comme un partenaire des États-Unis sur les questions régionales.
Il y avait quand même un diplomate américain, mais bon.
Oui, mais selon la presse iranienne, c'est grâce à l'influence de l'Iran.
Mais Moscou a imposé la présence d'un diplomate américain qui était là. Mais sur le retrait des Iraniens dans cette discussion.
En fait, je ne pense pas qu'il y ait retrait, parce que j'allais continuer mon raisonnement, c'était que l'autre grand absent est l'Arabie Saoudite. Et ça, c'était très important. Donc, pour la République islamique d'Iran, aujourd'hui, le principal ennemi est ce que l'ayatollah Khomeini a appelé l'islam américain, entre guillemets. Donc, cette alliance entre les pétromonarchies du Golfe et les occidentaux, qui, dans le grand récit de la révolution iranienne, explique tous les maux de la région. Donc apparaître à une table de négociation pour discuter de l'avenir de la Syrie avec l'Arabie Saoudite, c'était ce qu'il fallait éviter. Donc ce que je dis toujours sur les relations entre l'Iran et la Russie, ce qui est important, c'est pas... ils ne s'entendent pas pour, ils s'entendent contre. Et donc là, contre les États-Unis et contre l'Arabie Saoudite, parce que la Russie a quand même une capacité, si vous voulez, de rayonnement dans la région qui est bien plus grande que celle de la République islamique. Du fait que de l'absence de relations entre Téhéran et Tel Aviv depuis la Révolution, du fait de la guerre froide et la rupture des relations diplomatiques depuis le début de l'année 2016 entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, alors que la Russie a des relations avec l'ensemble des partenaires. Donc on voit que quand même, dans la relation irano-russe, c'est la Russie la grande puissance. Donc pour l'Iran, le fait d'être invité déjà est une victoire. Vous vous rappelez, le premier cessez-le-feu à la fin du mois de décembre, c'était un cessez-le-feu russo-turc. L'Iran avait été exclu après une première réunion tripartite. Donc je pense que pour l'Iran, le fait d'être présent et rappelons-nous le travail de la diplomatie française avant l'accord sur le nucléaire pour exclure l'Iran de l'avenir. Donc déjà l'accord sur le nucléaire, etc. Donc il faut voir aussi d'où la République islamique partait.
Et donc c'est déjà une avancée, c'est ce que vous voulez
dire. Voilà, dans leur parcours diplomatique sur la question syrienne, pour eux, d'être présent, c'est déjà une victoire, je pense.
Marc Sémo,
on ne peut pas, justement, prendre la chose au contraire. C'est vrai que c'est une victoire pour eux d'être là. En même temps, ils ont joué de leur pouvoir de nuisance, notamment au début du cessez-le-feu, en montrant que sans eux, c'était pas possible. En même temps, ils ont dû déjà commencer à composer. Au début, ils ne voulaient même pas du parrainage de l'ONU. Et là-dessus, c'était les Turcs qui poussaient, ils l'ont obtenu. Pour les Américains, bon, Lavrov voulait que les Américains soient là à un certain niveau. Il y avait l'occasion, d'une certaine façon, qui a permis à l'Iran d'emporter cette victoire symbolique, vu qu'il y avait juste l'ambassadeur américain. C'est parce qu'il n'y avait personne. Hein, c'était la nouvelle administration qui venait de s'installer. Tillerson n'a pas encore été intronisé. Mais assez rapidement, les Russes ne s'en cachent pas. Ils veulent faire de ce dossier syrien un peu le banc d'essai des nouvelles relations avec la Russie. Trump et Poutine doivent se parler samedi. Donc là aussi, l'Iran risque... Est-ce que l'Iran ne risque pas d'être finalement un peu marginalisé par rapport justement à un jeu qui serait plus russo-turc? Et les Russes aussi, à terme, savent que sans l'Arabie saoudite, rien n'est possible.
Oui, le jeu russo-américain. Combien de fois la diplomatie russe a sacrifié sa relation avec l'Iran en donnant la priorité à sa relation avec Washington, en votant par exemple les sanctions contre le programme nucléaire iranien? Donc il y a un passé là-dessus. Mais je crois que l'administration Trump vit dans une illusion, c'est-à-dire détourner la Russie de son partenaire iranien. L'Iran existe pour la Russie pour de multiples raisons. Ce sont des pays voisins et la question syrienne ne sera pas un facteur, à mon avis, déterminant pour les relations russo-américaines, dans le sens où la Russie va conserver à la fois une bonne relation avec l'Iran et avec les États-Unis. Donc je pense que ça, c'est vraiment une illusion, un peu comme la diplomatie française. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de Nicolas Sarkozy, voulait détacher la Syrie de son alliance avec l'Iran. Vous voyez à quel succès. Donc il faut se méfier de ces grands stratèges occidentaux, parce que ce qui compte, c'est le rapport de force sur le terrain.
Et c'est ça le problème d'Astana. En même temps, Moscou et Téhéran se méfient l'un de l'autre. Je vous cite, vous dites que cette collaboration entre Moscou et Téhéran, elle est fondée sur des intérêts communs et une méfiance réciproque.
Oui, mais ce qui est nouveau dans la relation, c'est l'entente militaire. C'est le fait qu'ils se soient battus. Et là où je rejoins Marc, c'est que dans une alliance militaire, la dynamique est différente dans une perspective de paix. Et donc, est-ce que l'Iran et la Russie seront aussi proches dans la perspective d'une résolution politique du conflit? Ça, c'est une vraie question. Parce que, comme l'a dit l'ambassadeur, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils sont à Astana pour des raisons différentes. Et c'est là la faiblesse. Mais cela ne veut pas dire que la Russie va complètement sacrifier ses relations avec l'Iran pour construire une alliance avec les États-Unis. Là, je pense qu'on est dans une illusion.
On y reviendra. Marc Pierini.
Oui, un mot sur la grande inconnue dans tout ça, c'est Trump. Jusqu'à présent, en même pas une semaine de pouvoir, on a vu des impulsions dans tous les sens, une frénésie de signatures, etc. Mais on ne sait pas trop quelle sera la politique là. Or, la grande crainte de l'Iran, c'est que l'accord sur le nucléaire soit dénoncé par les États-Unis.
Parce que l'accord, il a déjà dit qu'il allait le déchirer. Il l'a répété après l'investiture. Donc.
Il l'a absolument répété. Mais pour l'Iran, d'abord, c'est le retour, cet accord est le retour sur la scène internationale de l'Iran. Ça représente une certaine respectabilité pour l'Iran. Si tout d'un coup, dans un mouvement d'humeur, Trump déchire cet accord, il y a de très gros problèmes. Et il y a des problèmes entre Washington et Moscou à ce moment-là, parce que les Russes tiennent à cet accord. Donc ça, c'est
la... Ils vont mettre la pression ? Poutine va mettre la pression pour qu'il ne déchire pas cet accord sur le nucléaire iranien ?
J'imagine que oui, bien sûr, parce que sinon on rentre dans l'inconnu. Et l'autre incertitude, c'est Trump par rapport à la Turquie. La Turquie, deuxième armée conventionnelle de l'OTAN, la Turquie avec la base d'Incirlik a des ogives nucléaires américaines prépositionnées qui font partie du système de défense de l'Europe, qui font partie de la protection d'Israël par ailleurs. Est-ce que tout ceci est remis en cause parce que d'une certaine façon, Ankara est dans la main de Moscou aujourd'hui? Ankara est très affaibli par rapport à Moscou. Il y a eu l'affaire de l'avion abattu, puis un an après, l'ambassadeur abattu, par un policier en plus. Donc il y a une certaine faiblesse. Il y a aujourd'hui une équipe d'une vingtaine d'agents spéciaux russes qui enquêtent dans les locaux de la police turque pour savoir pourquoi et comment l'ambassadeur a été abattu. Donc il y a là une relation qui a de multiples incertitudes.
Marc Semo.
Oui, mais revenons justement à la Russie, parce que sur le dossier syrien, entre la position de Moscou et celle des Téhéran, elle est inconciliable. Effectivement, il y a eu une alliance militaire pour sauver le régime qui, au moment où il risquait de s'effondrer, mais les Russes ne cachent pas vouloir, à terme, dès qu'on a une possible alternative à Assad, tout en sauvant le régime, pour éviter le vide, alors que les Iraniens, en fait, aujourd'hui, c'est eux les patrons à Damas. Et eux veulent la victoire totale. Donc là-dessus, il y a quand même une divergence de fond. Et on voit mal comment ces prochaines semaines, ces prochains mois, elles pourraient être résorbées.
Vous pensez que cette divergence peut être
Je pense, comme je l'ai dit, ce qui surdétermine aujourd'hui la relation russo-iranienne, c'est la lutte contre le djihadisme sunnite. Pendant les années 90, c'était la lutte contre l'hégémonie américaine. Donc aujourd'hui, on voit que l'ordre hégémonique américain au Moyen-Orient s'est effondré. Bon, les opposants de l'Iran parlent de l'hégémonie iranienne, mais cette histoire de croissant chiite, etc., c'est beaucoup plus complexe, la réalité sur le terrain. Et c'est souvent surévaluer la puissance de l'Iran au Moyen-Orient, un moyen de dire... En alinéa tout de suite, c'est qu'il faut utiliser la force contre l'Iran. Donc je me méfie beaucoup de ces analyses qui surestiment, si vous voulez, la puissance de l'Iran. Il faut rappeler que la Syrie est aujourd'hui en guerre, qu'il y a un chaos, que la solution sera d'abord au niveau local. Donc Astana échoue par définition parce que c'est une représentation partielle des acteurs sur le terrain. Donc évidemment que l'Iran a une influence. Il ne faut pas nier le fait que l'Iran a une influence, que ce sont des morts iraniens au sol qui sont tombés à Alep. On estime à 10 à 15 morts iraniens par jour à l'automne dernier dans la guerre d'Alep. Donc ce ne sont pas des soldats russes. Donc bien sûr que le prix du sang permet à l'Iran aujourd'hui d'avoir une influence plus grande en Syrie. Mais il ne faut pas oublier que c'était des avions russes dans le ciel. Donc il y a quand même une alliance de facto. Oui. Et deux événements ont été très importants. Le fait que l'Iran ait autorisé des missiles russes tirés de la mer Caspienne et que quand même la base à côté d'Hamadan est utilisée par l'armée russe pour bombarder la Syrie.
Mais alors, justement sur ce point-là, parce que ça c'est très important, Clément Terme. On se souvient que lorsque justement on avait appris que certains avions russes avaient décollé d'une base iranienne, les responsables iraniens étaient un tout petit peu gênés. Ils disent oui, bon, c'est la première fois et puis ça n'arrivera plus.
Ça, alors, c'est la méfiance vis-à-vis de leur propre opinion publique. C'est-à-dire que leur politique n'est pas populaire. Donc, c'était pas le fait que les avions russes aient utilisé la base militaire iranienne qui posait problème. C'était le fait que les Russes l'aient rendu public. Et ça, c'était une humiliation pour l'Iran, parce qu'ils devaient assumer face à leur population, et leur constitution interdit cette utilisation.
Alors justement, il y a deux questions. C'est l'état réel de la collaboration militaire entre Moscou et Téhéran, et deux, comment est-ce qu'elle pourra évoluer demain?
Mais tant que Daesh est là, je dirais, il y a aussi la question de l'Afghanistan, on n'en a pas parlé, mais l'Iran et la Russie, par exemple, ont pris langue avec les talibans contre l'émergence de Daesh en Afghanistan. Donc il y a toujours, depuis les années 90, à l'époque où les Occidentaux n'étaient pas du tout clairs avec les talibans, Russes et Iraniens ont la lecture de la crise syrienne à travers ce prisme de la lutte contre le djihadisme sunnite. Ils partagent aussi un autre élément qui est très important, c'est qu'ils soupçonnent les Occidentaux de connivence. En raison de nos relations avec les pétromonarchies du Golfe et le fait qu'il est vrai que dans les années 80, nous avons soutenu les Moudjahidines en Afghanistan, certains d'entre eux sont devenus des membres d'Al-Qaïda célèbres, etc. Mais c'est comme toute théorie du complot. Après, il y a une part de vérité au début, mais ça imprègne beaucoup quand même. Donc, il faut bien voir que dans les réunions entre des responsables russes et iraniens, j'ai lu en persan des sources qui disaient que le 11 septembre était la responsabilité des Américains d'abord. Donc, quand même, ils ont une certaine affinité, une certaine connivence qui ne disparaîtra pas avec l'émergence de l'administration Trump.
Marc Pierini, il y a quand même un point sur lequel ces trois pays, Russie, Iran, Turquie, pourraient s'entendre sur la Syrie. C'est engager une forme de reconversion des rebelles anti-Assad en rebelles anti-djihadistes. Ça, c'est un point sur lequel tout le monde pourrait se mettre d'accord.
Oui, en effet. Mais il faut bien voir que la destruction de Daesh n'est pas l'objectif central. Le régime à Damas achète du pétrole à Daesh. Et
il l'achèterait toujours. Enfin.
Oui, mais la grande crainte des Occidentaux et de la Russie, c'est que si on élimine physiquement Daesh de Raqqa et de Mossoul, il va y avoir un effet de dispersion. Et donc les Tchétchènes et les Daghestanis vont rentrer chez eux, les Européens vont rentrer chez eux, les Tunisiens vont rentrer chez eux, etc. Et donc, il y a quand même possibilité...
C'est déjà le cas.
Oui,
c'est le cas. On l'a vu avec l'attentat à Istanbul et celui de l'aéroport d'Istanbul en juin dernier et celui dans la discothèque à Istanbul où là, c'était des Ouzbeks, Kirghizes, c'était
le risque principal, c'est le retour chez eux.
Ils ne rentraient pas chez eux là.
Oui, ils ne rentraient pas chez eux. On le voit bien avec ce qui se passe en Libye en ce moment. Il y a un effet de dispersion vers la Tunisie. Pour la Russie, le retour de centaines de combattants très aguerris vers le Daghestan, la Tchétchénie, etc., c'est un problème, bien plus que pour l'Europe encore.
Donc vous pensez finalement qu'une lutte contre Daesh comme abcès de fixation, finalement, a un peu de l'intérêt de tout le monde à partir du moment où la chose est relativement sous contrôle.
Absolument.
Marc Sémo, vous l'y pensez ?
Non.
Il y a peut-être un point sur lequel on pourrait revenir, c'est la question des liens entre la Turquie et l'Iran. Parce que c'est vrai que traditionnellement, en réalité, il y a une vraie opposition entre les deux. Quand je me souviens, dans les années 2000, quand ça allait très bien du côté de la Turquie, que l'économie était au beau fixe, la question c'était de savoir si la Turquie allait prendre le leadership dans la région. Et en réalité, le concurrent direct, c'était l'Iran. Et puis, bien sûr, évidemment, il y a cette concurrence, disons, historique, cette rivalité régionale qui se jouait entre les Perses et l'Empire ottoman. Donc tout ça est quand même profond. Est-ce qu'il n'y a pas, à terme, le risque de revoir cette opposition quasiment historique, presque culturelle, entre la Turquie et l'Iran réapparaître finalement, Clément Terme ?
Alors, sur le plan culturel, là, je dois dire que la situation est beaucoup moins claire que ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on parle du monde turco-iranien. C'est-à-dire que jusqu'à la dynastie Pahlavi, donc 1925, toutes les dynasties qui ont gouverné en Iran étaient d'origine turque. Mmh. Le guide suprême d'Iran parle le turc. Donc il y a une très grande minorité turque en Iran. Donc il y a une imbrication des deux mondes, au contraire. Mmh. Donc sur le plan culturel, il y a vraiment une affinité avec une rivalité dans le sens où il y a un certain mépris des Persans pour les Turcs, etc. Il y a quand même bien sûr beaucoup de blagues qui sont faites en Iran sur les Turcs, etc. Il y a une forme de concurrence, mais je dirais plutôt dans une forme d'intimité historique et une connaissance réciproque très profonde. Et dans ce triangle, face à la Russie, les deux pays partagent une mémoire historique très négative. Dans la construction du nationalisme turc et la construction du nationalisme iranien, avec toutes les guerres perdues par les deux pays au XIXe siècle. Donc ça, ça compte. Après, sur le plan économique, depuis la révolution, la Turquie a toujours eu des relations quand même assez fortes avec l'Iran, et notamment après l'imposition, l'embargo occidental contre la République islamique, la Turquie a quand même joué un grand rôle dans le fait que l'Iran ait pu survivre économiquement. Et il faut rappeler aussi que la Turquie, l'Iran est le deuxième fournisseur de gaz iranien derrière la Russie, qui est lui son premier fournisseur. Donc il y a aussi des relations de dépendance qui s'inscrivent dans la longue durée entre les deux pays. Après, la concurrence a émergé, et là je vous rejoins, à partir des printemps arabes en 2011. Parce que là, il y a la montée des sectarismes au Moyen-Orient et la Turquie islamiste. Donc là aussi, il y a une base commune hein, dans l'islam politique, le rejet d'Israël, etc., la référence idéologique commune aux frères musulmans, par exemple, le guide suprême de la révolution islamique et un traducteur en persan d'un des fondateurs, un des penseurs principaux des frères musulmans. Donc il y a aussi des points communs, mais il y a la concurrence sunnite-chiite qui émerge. Et là, c'est vrai qu'on le voit dans la bataille de Mossoul et en Syrie, il y a des risques, disons que par proxy ou par effet de contagion, les conflits régionaux accroissent la rivalité entre les deux pays.
Marc Pierini, et puis ensuite peut-être la question de l'OTAN, est-ce que ça change avec l'alliance
sur la Turquie et l'Iran, je crois que le facteur chiite, sunnite est très important. Le discours politique de M. Erdogan, y compris à l'intérieur, est un discours sunnite, et essentiellement, ce qui explique le fait qu'il ne se soit pas attaqué à l'État islamique très fortement jusqu'à tout récemment. Et dans la réforme, par exemple, de l'enseignement en Turquie, dans les cours de religion qui sont devenus obligatoires, etc., tout ceci, c'est fortement sunnite. Il y a aussi une épine importante dans tout cela, ce qui vient d'être dit, c'est les sanctions des Nations Unies contre l'Iran. La Turquie a joué un rôle pour les contourner, et il faut rappeler que l'une des affaires judiciaires qui tracasse énormément le président turc aujourd'hui, c'est le fait que quelqu'un à qui il a donné la nationalité turque, un Iranien qui s'appelle Rida Zarab, est en prison à New York pour avoir contourné les sanctions des États-Unis contre l'Iran. Et ça, c'est pas 3 millions de dollars, c'est des centaines ou des milliards de dollars avec des versements à une ONG dirigée par la femme du président turc, etc., etc. Donc c'est une très méchante affaire qui est d'ailleurs très haut dans l'agenda turco-américain le jour où les leaders se rencontreront. Donc, pas si simple que ça.
Hmm. Je reviens peut-être à Donald Trump, Marc Pierini. Il semble confirmer quand même, parce que vous dites qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a quand même quelques signes qui, depuis l'investiture, nous font penser qu'il va faire un certain nombre de choses qu'il avait annoncées. Et notamment sur la question de l'OTAN, il a redit qu'il ne voulait pas financer l'OTAN, qu'il a redit qu'il considérait qu'elle était trop coûteuse et qu'elle était désuète. Et la Turquie, je le rappelle tout à l'heure, évidemment, est membre de l'OTAN. Alors comment ce désengagement américain, s'il se confirme, et honnêtement, pour le moment, c'est ce qui a l'air quand même d'apparaître, ce désengagement dans le dispositif de l'OTAN, comment est-ce qu'il rebat les cartes et comment est-ce qu'il modifie le régime d'alliance qui existait quand même entre les Occidentaux et la Turquie, Marc Pierini?
Tout d'abord, je ne lis pas les déclarations de Trump comme un désengagement, je les lis comme la volonté farouche de faire payer aux autres membres de l'OTAN leur quote-part. Il est vrai qu'il y a un déséquilibre financier. La politique du 2%, 2% du PIB qui va à la défense, n'est pas respectée par la plupart des autres membres de l'OTAN. Donc, il y aura certainement un effort très énergique de la part de l'administration de Trump pour inciter les autres membres à payer plus. Ce qui, peut-être, sera suivi par les Européens qui se sentent un petit peu menacés maintenant par cette politique américaine. Est-ce que cela va rebattre totalement les cartes? Difficile à dire, mais je crois que dans la stratégie de M. Poutine d'affaiblir l'Union européenne et d'affaiblir l'OTAN, la Turquie, c'est un bon cas d'école. Si on pouvait dissocier un peu plus la Turquie de l'Occident, ce serait dans l'intérêt de Moscou. Comment ça va se passer? On ne sait pas, mais l'un des dossiers qui se présente maintenant, c'est l'achat des missiles antimissiles par la Turquie, qui n'en a pas aujourd'hui. La Turquie est engagée dans plusieurs sommets de l'OTAN à participer au bouclier antimissile de l'OTAN. Pour le moment, elle y participe uniquement avec un radar qui se trouve près de Malatia, dans la l'Anatolie, mais pas plus que ça. Et elle doit donc acheter des missiles. Elle a une offre franco-italienne, elle a une offre américaine. Puis maintenant, il y a tout d'un coup, dans le cadre de ce réchauffement depuis le sommet de Saint-Pétersbourg en août dernier, elle a une offre russe. Naturellement, si la Turquie se dote d'un système antimissile russe, ce sera totalement incompatible, opérationnellement, avec l'OTAN, puisque l'OTAN ne va pas intégrer ces systèmes avec des armements russes. Donc là, ce sera le premier test. Ça, c'est dans les mois qui viennent.
Clément Terme, je reviens sur les États-Unis et l'Iran. Il y avait évidemment beaucoup de jeux qui se jouent là. On se souvient que, là encore, durant la campagne, Trump avait dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été trouvé à l'été 2015. Il avait promis qu'il allait le déchirer. Est-ce que vous pensez qu'il va vraiment le faire? Marc Pierini avait l'air de douter un peu sur ce point-là. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Est-ce que vous pensez qu'il va annuler cet accord? Et finalement, jusqu'où Trump peut aller dans la confrontation avec Téhéran?
Non, je pense que d'abord, pour continuer ce que disait Monsieur l'ambassadeur, la question par rapport à l'OTAN, Trump et l'Iran, est-ce que Trump va essayer de réorienter la stratégie de l'OTAN dans la lutte contre le djihadisme sunnite, finalement? C'est son idée de se rapprocher avec la Russie. Il dit toujours, Monsieur Trump, allons nous battre avec les Russes contre Daesh. Donc est-ce que l'alliance irano-russe, militaire, même si elle est de circonstance, pourra être instrumentalisé par le président Trump pour réussir à l'élimination et l'éradication totale de Daesh de la région.
Attendez, que je vous suive très clairement, parce qu'on sait que Trump est l'homme des deals. Est-ce qu'il pourrait y avoir un deal qui serait « je n'annule pas l'accord sur le nucléaire, en revanche, vous montez en puissance s'agissant de votre coopération avec Moscou » pour régler ce problème syrien? C'est quelque chose de cet ordre-là?
En tout cas, il faut qu'il résolve une contradiction dans les propos qu'il a tenus pendant la campagne électorale. Pour l'instant, les seules indications que nous avons sont les déclarations. Donc il y a une contradiction entre la volonté de détruire le deal, et d'un côté, et de l'autre, l'ambition de s'allier avec la Russie et de facto avec l'Iran, finalement, parce que l'Iran est l'allié principal quand même, ou en tout cas l'un des ennemis principaux de Daesh dans la région, dans la lutte contre Daesh. Donc là, il y a une contradiction. Après, la question qui va émerger, c'est que le système américain, l'appareil de sécurité, est très anti-iranien. Donc, quid du rôle des milices chiites? Et là, on rejoint plutôt la Turquie. Le général Petraeus, par exemple, estime que le problème dans la région, ce n'est pas tellement Daesh, qui est un phénomène conjoncturel, mais les milices chiites. Et là, je pense qu'il y a vraiment un désaccord profond avec les Européens, qui, eux, ont été attaqués par les terroristes de Daesh, et qui ont comme priorité désormais la lutte contre Daesh et non plus la lutte contre l'Iran. Donc après, est-ce que Trump peut continuer avec le deal sur l'Iran. Les premières décisions indiquent que, en tout cas, ceux qui sont très anti-iraniens aux États-Unis sont écoutés, parce que une des premières décisions a été d'interdire les Iraniens pour les questions de visa, etc. Donc l'accès au territoire. Donc, mais est-ce que cette politique finalement islamophobe, anti-réfugiés, par sa dimension raciale et son objectif de rapprochement avec la Russie va continuer? Est-ce que la réelle politique va l'emporter? Ça, c'est des questions qui restent ouvertes. On peut pas savoir. Mmh. Mais c'est clair que c'est un accord international. Le scénario qui est privilégié, mais sûrement il sera démenti par les faits, c'est qu'il prendrait des mesures contre ce qu'on appelle les sanctions contre le terrorisme, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître quand même le terrorisme de Daesh nous apparaît bien plus dangereux, les droits de l'homme, entre guillemets, parce que c'est quand même une notion à géométrie variable dans la région, et qui mettrait en péril le deal. C'est-à-dire que comme le deal est basé sur une volonté politique du président Obama, l'absence de cette volonté politique et le fait que ce qui touche le plus l'Iran, ce sont les sanctions unilatérales américaines, finalement, si le président Trump décide de plus utiliser son pouvoir pour limiter les effets négatifs des sanctions unilatérales américaines contre l'Iran, est-ce que l'Iran sera incité à poursuivre ses efforts et à limiter son programme nucléaire? Et l'autre question qui se pose à la veille des élections présidentielles en Iran, est-ce que le fait que M. Trump, s'il développe une politique anti-iranienne, quelle va être la réaction du système en Iran? On a vu que Bush a conduit, en quelque sorte, si vous voulez, il y a une dialectique, à l'arrivée d'Ahmadinejad en Iran. Qu'est-ce que Trump va produire dans le système iranien? Ça, c'est une vraie question.
Marc Pierini, ce sera le mot de la fin sur cette politique anti-iranienne de Trump?
Oui, moi je vois bien qu'il y a des mots très forts. Je ne pense pas que l'establishment militaire américain va laisser l'accord sur le nucléaire se démanteler sans réagir. Mais bien entendu, il y a un facteur nouveau, c'est que le président Trump est extrêmement proche d'Israël, son administration est très proche, son ambassadeur est très pro-israélien, on parle de déménager l'ambassade, le gendre de Trump lui-même est à la Maison-Blanche, très pro-israélien. Donc là, il y a une incertitude massive.
Merci beaucoup à tous les trois. Marc Pierini, je rappellerai, Où va la Turquie, point d'interrogation, carnet d'un observateur européen, c'était chez Actes Sud en 2013. Merci beaucoup à vous également, Clément Terme, Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979, qui était paru au PUF en 2012, si mes souvenirs sont bons, Clément Terme, c'est bien ça. Merci infiniment et merci évidemment à notre partenaire du Monde chaque vendredi, Marc Semo. On se retrouve la semaine prochaine, Marc. Bientôt 53 minutes, l'heure de retrouver le monde des idées avec Brice Couturier. Voilà, c'est pas la bonne virgule, mais ça n'a aucune importance. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on va poursuivre un petit peu, on parlait de Donald Trump à l'instant, on va poursuivre un peu sur, évidemment, les conséquences de son arrivée. Un éclairage venu d'Amérique latine ce matin. On y avait misé sur l'ouverture du commerce mondial. Depuis l'élection de Trump, justement, on doit déchanter. Comment se traduit cette déception?
Eh bien, mes partenaires du site WordCrunch, qui traduisent en anglais la presse mondiale, ont mis en ligne un texte passionnant, titré « En tant qu'idéologie, la mondialisation est morte et enterrée ». Il a été publié dans plusieurs revues sud-américaines et son auteur n'est autre que le vice-président bolivien Alvaro García Linera. Linera a été élu vice-président en 2005 en tant que leader du Movimiento al Socialismo, une formation marxiste associée au président indigéniste Evo Morales. Il a été réélu en 2009 et voici ce qu'il écrit. La course folle vers un monde sans frontières et un rétrécissement implacable de l'État-nation au nom de la libération du commerce, eh bien cette époque arrive à son terme. Le monde entier a vécu avec, je cite encore, la conviction quasi-religieuse que toutes les sociétés de la planète étaient condamnées à s'unir au sein d'une économie unique, d'une culture unique. Cette croyance s'est effondrée. Fin de citation. Et là encore, on nous dit, le signal de la fin a été donné par le Brexit et l'avènement de Donald Trump. Et lorsque vous pensez, dit-il encore, que les deux protagonistes de ce revirement historique sont les deux pays principaux qui avaient porté le projet de salut de l'humanité par la mondialisation, nous nous retrouvons orphelins d'un rêve qui aura duré un siècle. Marx poursuit l'INERA, a été le premier à comprendre la nature nécessairement expansionniste du capitalisme. Si durant ces 350 premières années, ce système a vécu confiné à l'intérieur des limites des États, il était destiné à s'étendre et à acquérir des dimensions continentales jusqu'à atteindre le seuil mondial plus récemment, car l'effondrement de l'URSS a marqué le stade ultime du développement du capitalisme auquel plus rien ne semblait pouvoir s'opposer. Ce fut l'époque où fut proclamée, souvenons-nous, la fin de l'histoire, rappelle-t-il. La vieille gauche elle-même a dû faire avec, trouver une niche dans le discours du capitalisme universel. Elle a dû renoncer à ses idées d'autrefois, comme le socialisme d'État, le parti unique, la planification de la production sous direction de l'État. Comment s'opposer à ce qui était présenté comme un nouvel universalisme, comme une direction prise par l'histoire elle-même. Face à ce destin présenté donc comme inéluctable, les peuples ont pris le parti du conformisme et de la passivité, ce sont les deux mots qu'il emploie, et maintenant que cette construction s'écroule, reconnaît le vice-président bolivien, nous nous retrouvons non seulement orphelins de nos rêves, mais en panne d'alternatives crédibles. Je le cite encore car cet homme a le sens de la formule, Trump n'est pas le bourreau qui exécute le libre marché planétaire, c'est le syndic de faillite envoyé pour en liquider les illusions. Nous assistons à la disparition de la plus grande escroquerie des récents siècles. Alors toujours sur World Crunch, Roy Greenberg relève les étranges convergences intellectuelles entre ce qui reste de l'ancien altermondialisme dans la version Alvaro Garcia Linera et le discours de Trump lui-même. Le refus de la mondialisation commerciale, l'insistance sur les protections qu'offraient les États-nations, le refus de la monoculture universelle et de la prétention de l'Occident à imposer ses normes et ses modes de vie à la planète. Alors Trump serait-il la version ultra-droitière du vieil altermondialisme ?
Ultra-droitière du vieil altermondialisme, comme vous y allez. En tout cas, cette montée du protectionnisme risque-t-elle de provoquer, Brice, des guerres commerciales ? Qu'en pense-t-on, en tout cas, en Amérique latine, où vous nous emmenez ce matin ?
Oui, le Brésil, par exemple. Le Brésil se demande s'il ne devrait pas suivre l'exemple de Trump en matière de lutte contre les délocalisations et se lancer à son tour dans le protectionnisme. Dans le journal Folha de São Paulo, toujours sur le site de World Crunch, on lit que cette question hante aussi les Brésiliens. Même le Washington Post, hostile à Trump, écrit ce journal, reconnaît qu'avant même d'avoir pris ses fonctions, le président américain a déjà sauvé 3500 jobs américains dans l'automobile en menaçant les constructeurs tentés par les délocalisations. Alors, pourquoi ne pas appliquer les mêmes recettes au Brésil, qui voit les emplois suivre les délocalisations de ses entreprises vers des pays voisins ? 124 compagnies brésiliennes se sont ainsi récemment établies au Paraguay, un pays qui fait du dumping fiscal. Il offre une quasi-suppression de l'impôt sur les sociétés, 1% à celles qui déménagent entièrement leur production chez lui. Mais l'auteur de l'article, Clovis Rossi, répond par la négative. Primo, les emplois sauvés par Trump constituent de la pure propagande, c'est de la poudre aux yeux. Que pèsent les 3500 jobs sauvés dans l'automobile dans un pays qui a créé 156 000 emplois au cours du seul mois de décembre, alors qu'Obama était encore président. En outre, les délocalisations sont un mythe. En moyenne, un produit importé aux États-Unis depuis le Mexique comporte 40% de composants conçus et fabriqués aux États-Unis. En réalité, la chaîne de valeur, comme on dit, s'étend sur plusieurs pays en fonction des avantages respectifs offerts à chaque échelon. Y renoncer pénaliserait fortement les consommateurs en matière de prix. Trump, poursuit le journal brésilien, n'est ni protectionniste ni libéral, il n'a aucune idéologie et il agira au cas par cas. En outre, il peut utiliser, lui, l'énorme puissance de son pays pour négocier des accords commerciaux bilatéraux favorables aux États-Unis et ce ne serait pas le cas du Brésil.
Merci Brice Couturier, donc orphelin de ses rêves en panne d'alternatives crédibles, ce vice-président bolivien Alvaro Garcia Linera. Peut-être qu'on pourra retrouver son texte sur la page de Monde des Idées. Peut-être qu'on pourrait le mettre en ligne. Merci beaucoup Brice, en tout cas pour cette passionnante, position. Chronique. Voilà, chronique, merci beaucoup. C'est vendredi, c'est plus difficile. Merci beaucoup Brice, très bon week-end, on se retrouve lundi. Mais pour l'heure sur France Culture, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.